Tous en mode bonne conduite.
Avec Info RC,
attachez vos ceintures. On vous embarque à bord d'une intervention sur la sécurité routière.
L'action de prévention routière, tous en mode bonne conduite, est soutenue par l'auto-école Anne Boiron, Point S, la carrosserie Vernet, l'éducation nationale et la préfecture de l'Ardèche.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Alicia et Mila. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité routière en deux roues, un sujet qui concerne beaucoup de jeunes.
Pour en discuter, nous recevons plusieurs invités, Luc de la FFMC et Elvis de la Biker Spirit Academy. Bonjour à vous deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que chacun de vous peut se présenter rapidement, nous dire ce que fait votre association et quel est votre rôle ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Elvis, le président fondateur de la Biker Spirit Academy, qui est une association loi 1901, donc à but non lucratif. Nous avons eu l'idée de créer cette association parce que, ancien fonctionnaire de la police nationale, ayant travaillé comme CRS sur l'autoroute à Paris pendant plusieurs années, et ayant fini ma carrière dans la police nationale comme agent de police judiciaire pour la brigade des délits routiers de Lyon, j'ai malheureusement pu constater trop souvent que de nombreux accidents mettaient en cause des jeunes conducteurs de deux roues. Du coup, avec les récentes informations depuis quelques années, malheureusement aussi, on a pu constater qu'il ne se passe pas une semaine ou 15 jours sans que des jeunes conduisant des véhicules à moteur deux roues, véhicules légers, ne soient mis en cause dans des accidents plus ou moins graves. L'objectif de la Biker Spirit Academy, comme le nom l'indique, c'est d'essayer de transmettre un esprit motard aux jeunes motards qui débutent avec leur deux roues pour tenter d'en faire des adultes plus responsables et d'aider ces jeunes motards à pouvoir expérimenter des expériences à moto dans des conditions de maximum sécurité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui empêchent et qui interdisent d'avoir des comportements illégaux. Mais malheureusement, trop peu de structures sont présentes pour encadrer ces jeunes et les accompagner pour qu'ils puissent malgré tout pouvoir expérimenter des choses à moto dans des conditions de maximale de sécurité. Voilà l'idée de base.
Bonjour à vous, moi Luc, je suis adhérent à la Fédération française des motards en colère, ou citoyen, ça dépend, par moment on est en colère, mais on est aussi citoyen. Donc cette association existe depuis plus de 40 ans. Mon activité principale, moi, c'est le comité ERJ, c'est-à-dire éducation routière de la jeunesse. On va dans les lycées, les collèges, pour parler aux jeunes de sécurité en deux roues. Alors, on ne peut pas parler que des deux roues, on est obligé de tenir compte de tout notre environnement. Donc on ne peut pas ignorer complètement les voitures, les piétons, les cyclistes, les camions et tout ça. Donc tout ça fait partie de ce dont on parle. On va parler aussi aux jeunes des risques qu'il va y avoir et ce qui peut se passer sur la route.
Alors, on va commencer par une question pour vous deux. Pourquoi les jeunes sont-ils particulièrement exposés aux risques lorsqu'ils conduisent des deux roues ?
En deux roues, on a une sensation de liberté. Je dis bien une sensation qui n'est pas absolue. Et du coup, on peut s'autoriser des choses qui ne sont pas tout à fait comme il faut, quoi. Hein, je pense.
Oui, tout à fait. Oui. Pour avoir été jeune, moi aussi, même si ça se voit pas, moi, j'ai commencé la moto très tôt. J'ai eu une moto dès l'âge de 12 ans. Et j'ai la chance d'avoir un papa qui, lui, faisait de la moto depuis toujours. Donc, il a pris le temps de me former, de m'expliquer, de m'apprendre et de me transmettre certaines valeurs qui aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression, sont de plus en plus éloignées. Du coup, effectivement, la sensation de liberté qu'on peut ressentir quand on met sa clé dans le contact et qu'on met un coup de kick et qu'on passe la première et qu'on s'en va, oh, c'est grisant. Surtout au début, quand on a 14 ans, 15 ans, On est pendant des années dépendant de nos parents pour se déplacer, d'aller à un endroit. Et là, d'un coup, on peut aller où on veut, comme on veut, quand on veut. C'est un effet grisant. Et du coup, bah, effectivement, on a plus de tentations d'expérimenter, d'essayer, de se mesurer aussi. Parce qu'il y a aussi cette histoire d'ego hein, qui fait que ouais, je suis meilleur que toi, t'es meilleur que moi. Et du coup, ça oblitère, ça enlève dans l'esprit de certains jeunes le caractère de dangerosité lorsqu'on roule sans respecter certaines règles. Et la base de toutes ces règles, c'est bien entendu le code de la route, avant tout. Voilà. Donc, effectivement, certains jeunes sont plus exposés à des comportements à risque que d'autres. J'essaye pas de trouver des excuses. Hein, j'apporte juste des explications. Et dans ces explications, il y a aussi l'aspect psychologique. Quand on a 14, 15, 16, 17 ans, on est en pleine mutation physiologique. Et du coup, il y a une partie des hormones qui sont en ébullition. Et ça aussi, dans certaines circonstances, ça empêche d'avoir conscience du danger. Voilà.
Quels sont les risques lorsqu'on passe du vélo ou de la trottinette à un scooter ou une moto ?
Eh ben, les risques, j'allais dire, c'est le moteur. Le moteur qui va faire qu'on va prendre de la vitesse, et il faut arriver à maîtriser cette vitesse. Donc tout le risque va venir de là, chose qu'on n'a pas l'habitude, même en vélo. Dans une grande descente, on va arriver à 50 km/h. En scooter, en moto, on va très vite arriver au-dessus. Donc le plus gros risque, ça va être ça, et puis toutes les conséquences ensuite de cette vitesse. Ça va être les risques de perte de contrôle, les risques de chute et tout ça.
Effectivement, le premier des risques, c'est de changer de volume et de masse. Pour employer des termes un petit peu de sciences physiques, les profs de maths vont être contents. Le volume, ben, c'est bien évidemment l'entièreté du véhicule. Hein. Un scooter, c'est bien plus gros qu'un vélo. Un 50, c'est bien plus haut. C'est aussi plus lourd. Il y a effectivement le moteur. Quand on est à vélo, même si on a des bonnes cuisses et des bonnes jambes, pour l'accélération, il faut quand même plusieurs centaines de mètres. Là, avec un vélo moteur, hein, qu'on appelait ça à la base un vélo moteur, c'est beaucoup plus rapide d'accélérer et d'atteindre une vitesse maximale. Donc tout ça demande une appréhension physique, c'est-à-dire au niveau du regard, au niveau des sensations, au niveau de l'attention, qui fait qu'on doit anticiper beaucoup plus lorsqu'on circule sur un véhicule à moteur que lorsqu'on circule à pied ou à vélo. Donc le principal risque quand on passe d'un vélo ou de trottinette à un engin comme un scooter ou un 50, c'est le temps d'adaptation pour pouvoir anticiper les choses. Et c'est une question d'attention. Voilà. Et là, ça rejoint ce que je disais précédemment. Ce niveau de concentration, ce niveau d'attention peut être altéré par l'émotion. Hein, je suis grisé, je me tape un kiff, etc. Du coup, je ne pense plus à tout ce que je dois penser pour faire attention. Et c'est là, en général, qu'on commet la petite erreur, le petit truc qu'il ne fallait pas, et on se retrouve à glisser par terre, si tout va bien, ou à rentrer dans quelqu'un. Et là, ça devient un peu plus grave.
Alors Luc, du côté de la FFMC, vous connaissez bien les jeunes motards. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dues au manque d'expérience ?
Mais c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, donc ce que Elvis vient de dire, c'est un petit peu un excès de confiance. Quand on est jeune, et puis heureusement, on croit savoir beaucoup de choses, mais on manque quand même d'expérience. Et on va prendre certains risques. Voilà. Donc la première erreur, c'est l'excès de confiance. Et puis une autre chose, c'est qu'on se croit un petit peu invulnérable. Donc ça va avec, hein. On ne craint rien, on n'a peur de rien. Et une dernière chose que j'ai rencontrée aussi, c'est que il y en a certains qui sont aussi dans la provocation. provocation envers la famille, envers les autorités, envers les adultes, envers les profs. Et d'une façon ou d'une autre, on va essayer de se démarquer de tout ce qui existe.
Tout à fait. Au sein de la Biker Spirit Academy, notre approche se veut extrêmement pédagogique. C'est-à-dire que il est fondé, c'est sûr, c'est un constat, que quand on a 14-15 ans, qu'on acquiert la possibilité de se déplacer de façon autonome avec un véhicule comme ça, on pense qu'on sait conduire. On a son BSR, on sait conduire. Alors effectivement, on nous a appris à nous déplacer avec un véhicule à moteur de roues. La problématique, c'est que on manque effectivement d'expérience. Et ce sentiment d'invulnérabilité nous pousse à commettre des choses pour essayer, pour découvrir. C'est toujours cette même approche à chaque fois. Quand on est jeune, on est là pour expérimenter, découvrir, apprendre, pour pouvoir progresser et s'améliorer. Le problème, c'est que on peut le faire, mais dans des conditions de sécurité. C'est-à-dire, on peut le faire quand on est encadré. Et cet encadrement, il ne peut venir que de la part de personnes qui ont cette expérience déjà. Voilà. Du coup, je pense que ce côté un petit peu provocateur, dont parlait justement Luc, ça vient d'un manque d'information et d'un manque de formation. Voilà. Il y a aussi l'aspect de la responsabilité parentale. Il ne faut pas l'oublier. Hein, les parents, c'est quand même eux qui, normalement, dans 99% des cas, achètent le véhicule ou permettent d'acheter le véhicule à un enfant mineur. Ils ont donc une part de responsabilité dans l'éducation qu'ils vont leur donner par rapport à l'utilisation de cette machine. Donc, faut pas toujours tirer sur les jeunes. Faut aussi remettre les choses un petit peu à leur place et dire aux papas et aux mamans, c'est bien de donner une autonomie à son enfant, c'est bien de lui faire confiance, ça fait partie de l'évolution nécessaire pour un enfant, mais il ne faut pas oublier de l'encadrer, parce que ça reste un enfant.
La FFMC mène aussi des actions de prévention. Quel message essayez-vous de faire passer aux jeunes ?
Les messages, j'allais dire, il y a beaucoup de messages. Un des principaux, c'est premièrement de dire vous n'êtes pas invulnérable. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Vous n'êtes pas invulnérable. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. Faites attention aux autres, ça fait partie quand même de la vie de tous les jours. Et donc toutes les interventions, on les termine quand on va voir dans les lycées, dans les collèges. On va voir les jeunes, on parle de sécurité, on parle de tout un tas de choses qui vont autour de la moto, des deux roues, et puis aussi des voitures, des piétons et tout ça. Et quand on termine, on leur dit toujours, prenez soin de vous, et faites attention aux autres. C'est en faisant attention aux autres qu'on prend aussi soin de soi.
Vous vous battez aussi pour de meilleures routes. En quoi l'état des routes peut-il être dangereux pour les deux roues ?
C'est même le problème principal. Enfin, non, pas le problème principal, mais un des principaux problèmes. Les travaux sur les routes, les gravillons sur les routes, les trous, les barrières, les glissières dites de sécurité qui ne sont pas doublées. Ça fait tout un tas de choses. Les aménagements qui sont dits de sécurité et qui en réalité pour les deux roues motorisées ou pas sont très dangereux. Hein. Ça va être des bordures en béton par exemple qui vont être sur la route, des obstacles et tout ça. Donc tout ce genre de choses auxquelles on doit faire attention. C'est pour ça qu'à FFMC, on essaye d'organiser au moins une fois par année une journée pour les décideurs au niveau du département, au niveau des communes, une journée où on les emmène en moto pour leur montrer. On va leur montrer les plaques d'égout glissantes, on va leur montrer les barrières de sécurité, on va leur montrer tout un tas de choses comme ça. Donc les routes sont dangereuses et c'est un des arguments de la FFMC où on dit aux autorités « occupez-vous des routes, nous on s'occupe de nos motos, on n'a pas besoin de contrôle technique ».
Enfin, en scooter ou en moto, on est moins visible que les voitures. Que doit faire un jeune conducteur lorsqu'un automobiliste ne l'a pas vu ?
Quand il ne l'a pas vu, c'est déjà trop tard. On doit essayer de se tenir dans des zones. On montre qu'il y a des endroits, des zones où les gens ne peuvent pas vous voir. Et puis, il y a aussi des problèmes physiques qui font qu'on peut ne pas voir quelque chose. C'est ce qu'on essaie de montrer. C'est ce qu'on appelle la tâche aveugle, par exemple. Le fait, on insiste sur le fait qu'il faut bien regarder, tourner la tête, observer tout un tas de choses. Il y en a certains qui pensent résoudre le problème en disant « si on fait du bruit, on ne nous voit pas, mais on nous entend ». Il y a eu des études qui montrent que ça ne marche pas. Alors il y a d'autres solutions. Il y a eu des solutions au niveau d'éclairage. Essayer de faire un éclairage différent sur les motos. C'est ce que j'ai fait moi sur ma moto et ça a l'air de porter ses fruits, mais il n'y a pas de truc. Le plus important, c'est d'attirer l'attention, d'informer l'ensemble des conducteurs, de dire chacun à tout le monde, vous n'êtes jamais seul sur la route. Automobiliste, conducteur de camion, cycliste, motocycliste, vous n'êtes jamais seul sur la route. Il y a donc d'autres personnes à qui il faut faire attention.
Et tout à fait. Là on rejoint encore une fois cette notion d'expérience et donc de formation des jeunes conducteurs à deux roues. On peut expliquer à ces jeunes motards qu'il y a des angles morts dans tous les véhicules. Après, on peut leur donner quelques petites astuces qu'on a acquises au fur et à mesure de notre expérience. Par exemple, lorsqu'on arrive derrière une voiture, avant de la dépasser, on peut faire attention au regard du conducteur, parce que quand on arrive derrière un véhicule voiture, on peut regarder dans le rétroviseur intérieur à travers le pare-brise ou dans les rétroviseurs extérieurs, et on voit le regard du conducteur. Et donc, on voit si le conducteur nous a vus. C'est quelque chose de tout simple, mais on ne l'explique pas aux jeunes conducteurs. Donc eux, ils pensent que parce qu'il arrive derrière avec un pot de détente qui fait du bruit, le conducteur de devant, il l'a entendu et donc il l'a vu. Et non, parce que s'il a la radio d'allumer, il n'a pas entendu la bécane, et donc son regard ne s'est pas déplacé dans ses rétroviseurs. Mais comme je suis à moto derrière et à une distance raisonnable pour les distances de sécurité, mais comme j'ai la vue normalement qui est bonne, je vois si le conducteur du véhicule de devant m'a vu dans ses rétros. Et quand j'ai pu constater que le conducteur m'a vu, et si j'ai le droit de dépasser, alors j'engage mon dépassement. Voilà, ça c'est de la formation, et c'est ce genre d'action que nous allons mettre en place à la Biker Rights Academy pour les jeunes conducteurs de moto, par exemple. Il y en a plein d'autres.
Elvis, vous formez les jeunes à la conduite. Quel conseil donnez-vous à ceux qui débutent ?
Alors, j'amène juste une petite correction. Nous ne formons pas les jeunes à la conduite. Ça fait partie des prérogatives d'une profession réglementée et ce sont les auto-écoles qui forment à la conduite. Nous, on instruit les jeunes. Pour expliquer, par exemple, tous les mercredis après-midi, on reçoit nos élèves. Ils arrivent à 14h et de 14h à 15h30, on est en salle de cours et c'est de la formation théorique avec des films, avec des schémas, on explique, on illustre, on informe, on instruit et ensuite dans des environnements sécurisés où il n'y a pas de circulation avec d'autres véhicules, on leur fait faire des petits exercices d'apprentissage, de maîtrise de leur véhicule à vitesse lente, au milieu de certains cônes, pour apprendre comment on place son regard pour pouvoir prendre une trajectoire pour tourner à moto, etc. Mais la formation à la conduite, ça c'est réservé exclusivement aux auto-écoles. Par contre, nous, on va leur donner la possibilité d'acquérir de l'expérience une fois qu'ils auront eu cette formation à la conduite. Alors c'est une petite différence pour les gens qui nous écoutent, mais c'est une très grosse différence en matière de droit et en matière de profession. Nous ne pensons pas à la Bikers Academy avoir la formation nécessaire et les compétences professionnelles pour former les jeunes à la conduite. Par contre, on partage nos expériences, on partage nos compétences de vieux motards pour leur donner des trucs, des astuces qui vont leur permettre, à leur niveau, à leur rythme, de pouvoir progresser dans la maîtrise de leur véhicule et donc en espérant que ça puisse leur permettre d'éviter de connaître des chutes ou voire même des accidents.
Quelles idées reçues ou croyances les jeunes ont-ils souvent sur les deux roues ?
Souvent, nous, on entend dire la moto, c'est dangereux. Ça, en général, c'est ceux qui ne pratiquent pas. Ceux qui voient passer les motos, ils disent c'est dangereux. Et ceux qui pratiquent, eux, ils vont dire plutôt c'est la liberté, c'est tout un tas, c'est ça. Oui, c'est le danger pour ceux qui ne connaissent pas, qui voient simplement tous les risques. Ça va être le mauvais temps, ça va être toutes ces choses-là.
Effectivement, moi je rebondirais sur l'exemple que vient de donner Luc. La moto, c'est dangereux. Alors effectivement, en général, on entend ça de la part de gens qui n'ont jamais piloté de moto ou qui ont eu dans leur famille des expériences malheureuses. Et ça, c'est bien dommage. Cependant, il faut avoir conscience d'une chose. La moto, une moto, que ce soit un 50 ou un 1700 comme moi je possède, c'est un objet. Or, un objet, il ne peut pas être dangereux par nature, vu que c'est un objet. Par contre, la personne qui prend l'objet et qui l'utilise, c'est elle qui peut être dangereuse. D'accord ? Je prends l'exemple d'une arme, je suis ancien flic. Un pistolet, vous le posez sur une table, même s'il est chargé, il n'est pas dangereux. Ça reste un pistolet sur une table. Par contre, si c'est un gangster qui le prend en main, ou si c'est un flic qui le prend en main, ça n'aura pas la même dangerosité. D'accord ? La moto, c'est pareil. Tout dépend qui monte dessus et comment il va s'en servir. Et ça, encore une fois, c'est de la formation intellectuelle qu'on va dispenser aux jeunes en leur disant « Attention, tu as une moto, tu deviens responsable. Tu deviens responsable de ta vie, mais tu deviens aussi et surtout responsable de la vie des autres. » Parce qu'une moto lancée à 60 km/h, ça fait une moto avec quelqu'un dessus, ça fait à peu près un peu plus de 200 kg. 200 kg à 60 km/h, l'impact, il peut être très fort. D'ailleurs, j'invite les profs de maths à vous faire des calculs là-dessus, parce que la force d'impact d'un objet, normalement, si j'ai bonne mémoire, c'est le poids multiplié par le carré de la vitesse. Alors, à vos calculettes, quand ça fait 200 kg lancé à 60 km/h, vous allez voir l'impact que ça donne. On est tout de suite en tonnes. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'information, vous voyez. Si on ne l'explique pas, ben on ne le sait pas. Et du coup, ben, on se dit, allez, j'ai des freins, ça freine bien, je peux y aller. Non, non, non. Donc il y a une responsabilisation, et donc il y a une maturation de l'esprit des jeunes sur laquelle il faut travailler absolument.
Existe-t-il des petites astuces qui peuvent vraiment sauver la vie ?
C'est pas des petites astuces, disons que c'est un comportement. Le comportement, c'est de faire attention aux autres. Se dire que nous, on peut faire des erreurs, donc être conscient des erreurs que l'on peut faire, et que les autres peuvent faire aussi les mêmes erreurs. Si quelqu'un, par exemple, déboîte, ben c'est peut-être qu'il n'a pas vu. Mais pourquoi il n'a pas vu ? Est-ce qu'il n'a pas regardé ? Est-ce qu'on était dans l'angle mort ? Est-ce qu'on était dans ce qu'on appelle la tâche aveugle ? Donc il y a tout un tas de choses. Donc il faut être conscient que nous, on peut faire des erreurs et les autres peuvent faire aussi ces mêmes erreurs. Mais des petites astuces, non, il n'y a pas de truc qui va dire... Enfin, moi, j'en vois pas.
Non, je pense pas qu'il y ait de petites astuces, effectivement. Il faut savoir que dans les statistiques que j'avais entre les mains quand j'étais à la brigade des délits routiers de Lyon, la première cause d'accident, en réalité, c'est justement le manque d'attention, l'erreur humaine. Je prends un autre exemple. Quand on nous explique que la vitesse, c'est dangereux, ben, par exemple, c'est faux. Pourquoi ? Parce que la vitesse n'est pas un facteur accidentogène. Par contre, la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut bien dire que c'est la personne qui est en train de piloter un engin à moteur, une voiture, un vélo, une voiture, un camion, une moto, c'est cette personne-là qui doit faire attention et adapter sa vitesse à un environnement et à des conditions de circulation. D'accord ? Et donc, la vitesse en elle-même, c'est pas dangereux. Sinon, on interdirait les avions, parce que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr, mais ça vole à 1000 km/h de moyenne. Ah, tiens. Si la vitesse était dangereuse, ben, là-haut, ils mourraient tous à chaque fois. Hein, le TGV, c'est pareil, hein, plus de 300 km/h. Bon. Donc, il faut bien remettre les choses dans leur place. Alors attention, je ne suis pas en train de dire à tous ceux qui nous écoutent, il faut rouler à 200 km/h. Parce que c'est une question d'adaptation en fonction de l'environnement dans lequel on circule. Et c'est pour ça qu'il y a des limitations de vitesse. Et qu'on doit respecter. Voilà. Mais il faut juste remettre les choses à leur place. Donc, c'est une question d'attention. Il faut être attentif, il faut être concentré. Et pour ça, il faut avoir conscience qu'on possède un engin à moteur qui peut, si on ne le maîtrise pas correctement, devenir une arme et tuer des gens. Et quand c'est présenté comme ça, vous voyez, même vous, les auditeurs et les auditrices ne voient pas, mais même vous, ça vous fait écarquiller les yeux. Et c'est vrai parce que peut-être on ne vous l'avait jamais expliqué comme ça, on ne vous l'avait peut-être jamais présenté comme ça. Mais effectivement, quand je roule à 60 avec une petite bécane de 100 kilos, si je tape quelqu'un, à part si c'est Hulk, il ne va pas se relever dessus, il ne va pas se relever indemne, quoi. Voilà. Donc c'est une question de conscience, de maturité d'esprit et donc de concentration quand je conduis. Quand je conduis, je dois être à 200% concentré sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on ne doit pas consommer d'alcool, on ne doit pas consommer de stupéfiants, parce que ça altère nos réflexes, notre vision, notre anticipation, et donc on fait moins attention. Et on devient encore plus dangereux. Voilà.
Et enfin, quels équipements recommandez-vous fortement?
Il y a d'abord les équipements obligatoires, le casque et gants. Et puis, on recommande très fortement de ne pas rouler en t-shirt, en short, en tongs, d'avoir des vêtements de protection. Mais rien que déjà le casque et les gants, il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que ces équipements de sécurité, il faut les utiliser correctement. C'est-à-dire que celui qui n'attache pas son casque, c'est comme s'il n'avait pas de casque. Celui qui n'a pas des gants, celui qui prend des gants de jardinage, par exemple, c'est des gros gants bien en cuir, bien costauds et tout, mais si jamais il doit frotter sur la route, les gants, ils vont partir. Donc les gants de moto sont prévu pour ne pas s'arracher comme ça. Donc les équipements de sécurité, c'est très bien, il faut les avoir et il faut les utiliser correctement. Donc, c'est ce qu'on essaye de montrer. Le casque, s'il n'est pas attaché, pouf, il s'en va comme ça. Alors il y en a qui ont résolu le problème et ils l'attachent mais ils ne le serrent pas. Donc ça les libère un petit peu. Mais le casque, il peut se soulever aussi et puis ça peut poser d'autres problèmes.
Ouais. Ouais, pour rebondir là-dessus, j'avais un ami à l'âge de 16 ans, il conduisait un 125 et il n'avait pas attaché son casque correctement, donc il ne l'avait pas fait exprès. Hein. Il n'avait pas attaché son casque correctement et il est rentré chez lui, il a chuté. Il a perdu le contrôle de sa petite bécane, il est tombé et son casque, comme il n'était pas attaché correctement, il s'est enlevé, sa tête a heurté le sol. Et il est mort. Ça a le mérite d'être clair. Donc, effectivement, casque, gants, et puis même si c'est pas obligatoire, et même si on risque pas une amende, faut être complètement débile pour rouler sans un blouson adapté, sans pantalon et sans chaussures. Et même quand on a cet équipement-là, et là je parle par expérience personnelle, j'ai eu un grave accident de moto en 2018 récemment, à Vallon-Pont-d'Arc. J'étais habillé correctement, en tenue de motard. Je roulais pas vite parce que je remontais une file de voiture. Je roulais à 30 km/h à peu près. Et une dame a fait demi-tour parce qu'elle en avait marre d'être dans les embouteillages. Elle n'a pas regardé, elle n'a pas mis son clignotant. et elle a fait demi-tour en accélérant pour passer devant les véhicules qui arrivaient en face. Donc, elle a mis la patate au moment où j'arrivais avec ma moto. Elle m'a percuté, j'ai fait 7 minutes de coma sur le bitume, tout le monde a cru que j'étais mort, et ça m'a valu une double greffe de peau sur les jambes. Et pourtant, j'étais équipé, j'ai l'expérience, et je faisais attention. Donc, malgré tout ça, j'ai eu cette greffe de peau sur les jambes. Je peux vous assurer que avoir une greffe de peau, c'est d'une douleur qu'on ne peut même pas imaginer. J'avais jamais eu mal de toute ma vie comme ça. À chaque fois qu'on changeait mon pansement, je tombais dans une syncope, tellement la douleur était forte. Donc, sincèrement, faites gaffe. Arrêtez de vouloir faire les barbeaux à rouler avec des tongs et en short et sans casque pour faire style. Parce que le jour où vous tombez, il n'y a pas de surhomme. Il n'y a que des grands blessés, quoi. Pour information, il y a cet été, malheureusement, il y a un jeune ici à Aubenas qui a voulu épater un peu les potes avec un 50. Et il a fait un wheeling, il est tombé, il n'avait pas de casque, il est mort sur le coup. Et ça, c'est du concret. C'est aussi le genre d'information qu'on va transmettre et qu'on transmet à la Biker Spirit Academy. C'est-à-dire on va faire venir témoigner des gens qui sont en fauteuil roulant et qui étaient motards et qui ont expliqué ce qui s'est passé. Et là, on va pouvoir faire prendre conscience aux jeunes conducteurs que même si on est propre entre guillemets, hein, même si on est carré, même si on est bien équipé, mais on est toujours un conducteur à risque en tant que victime.
Merci à vous deux pour vos témoignages et conseils. On retient que la prudence, l'équipement et la formation peuvent vraiment faire la différence. Et surtout, un accident peut marquer une vie entière. Alors prenez soin de vous sur la route.
Merci.
Merci.
Tous en mode bonne conduite.
Cette semaine, les jeunes prennent le micro. Pour rouler plus sûr, plus cool et sans accident.
Terminus, tout le monde descend.
L'action de prévention routière, tous en mode bonne conduite, est soutenue par l'auto-école Anne Boiron, Point S, la carrosserie Vernet, l'éducation nationale et la préfecture de l'Ardèche.